Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Au micro pour intervenante dans cette émission du jour, je reçois Jeanne Ernoux, psychologue à l'établissement pénitentiaire des mineurs à Lavaur. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est 10 ans d'expérience et c'est bientôt presque 4 ans d'expérience en tant que psychologue auprès des mineurs qui sont incarcérés. Est-ce qu'on peut vous demander, en introduction de cette émission, quelles étaient un petit peu vos motivations pour choisir très précisément de travailler auprès de jeunes encore mineurs et incarcérés pour différentes causes, hein? Qu'est-ce qui vous habite, hein?
Qu'est-ce qui m'habite, ouais. C'est une bonne question. J'ai choisi de venir travailler en détention après déjà quelques années à la protection judiciaire de la jeunesse. Et je suis arrivée pour les mêmes raisons à la protection judiciaire de la jeunesse il y a 10 ans, du coup. C'était pour aller à la rencontre des jeunes qui viennent pas voir les psychologues d'habitude et d'aller à la rencontre du public et à la rencontre des périphéries auxquelles on n'est pas confronté habituellement. Et donc pouvoir aller aider des jeunes et accompagner des jeunes à s'en sortir et à quitter, si possible, le milieu de la délinquance dans lequel ils grandissent pour bon nombre d'entre eux depuis des années.
Alors, 4 ans bientôt d'expérience sur ce lieu même d'un établissement pénitentiaire qui accueille 58 mineurs actuellement, filles et garçons. Je crois que c'est une minorité de filles. Vous avez actuellement 4 filles, hein, dans cet établissement à Lavaur.
C'est ça, 4 filles pour le reste de garçons, une 50aine de garçons.
Alors je pense que ceux qui nous écoutent sont curieux et je pense à tous les parents. Quel est le profil de ces jeunes? Vous avez un sourire, hein, qui se retrouve. Hein, donc âgés entre 13 et 18 ans tout juste. Donc de jeunes adolescents incarcérés. Un profil, plusieurs profils, on vous écoute.
Il y a plusieurs profils. Comme ça, rapidement, j'en identifierai 3. Il y a les mineurs, comment dire, dans le trafic de stupéfiants, on va dire, qui sont des mineurs délinquants, qui ont des bases éducatives, qui sont souvent déscolarisés pour diverses raisons, qui ont besoin d'argent pour diverses raisons, pas forcément des parents de catégorie socio-professionnelle basse, il y a de tout. Mais en tout cas, la difficulté pour eux de demander de l'argent à leurs parents et donc un besoin de se faire de l'argent par eux-mêmes. Et du coup, pas possibilité de travailler et de gagner un salaire avant 18 ans. Donc, ils vont se faire leur argent de leurs propres moyens. Donc ça, c'est un peu la majorité des jeunes qu'on reçoit. Dans le trafic de stupéfiants ou les cambriolages basiques, j'ai envie de dire, sans attaque, agression à la personne, quoi. Vraiment dans des maisons vides ou des voitures vides, sans agression, sans violence envers la personne. Ça, c'est le premier profil. Et donc, c'est des jeunes qui souvent sont intelligents, qui sont très débrouillards, qui ont une vivacité d'esprit qui, du coup, pour moi, est très intéressante parce que des capacités d'élaboration et de réflexion vraiment passionnante, avec des possibilités d'élaborer, de réfléchir, d'analyser le pourquoi ils se retrouvent là, quels sens sont leurs passages à l'acte, vraiment très riche. Après, il y a un autre profil de jeunes qui sont plutôt dans la violence, dans l'agressivité, avec des violences parfois très graves, plus ou moins criminalisées selon combien ils étaient et s'ils ont utilisé leurs mains ou s'il y avait des armes au passage. Avec souvent c'est souvent des jeunes qui ont des profils plutôt de style ITEP, SECPA, pour vous faire une idée. Et donc c'est des jeunes qui n'arrivent pas à parler, qui n'ont pas forcément les capacités intellectuelles d'élaborer et de mettre des mots sur tout ça. Et du coup, la violence qu'ils vivent, qu'ils ressentent, ils l'agissent dans leur passage à l'acte. Et donc là, il peut y avoir les homejacking, comme on dit, les vols à l'arraché, ou des bagarres qui tournent mal entre quartiers rivaux, bandes rivales. Et c'est des jeunes qui souvent sont très en souffrance et qu'ils agissent leur souffrance à travers leur passage à l'acte. Et du coup, avec eux, je travaille surtout sur apprendre à mettre des mots, à parler de leurs émotions, à essayer d'apaiser un peu les tensions interne et de trouver d'autres moyens que la violence pour apaiser cette tension. Et un troisième profil, là, c'est plutôt les jeunes qui sont sur des affaires de mœurs, donc sexuelles, qui sont des profils très adaptés, très calmes, très adaptés, qui bougent pas, qui ont une un très bon niveau scolaire, une capacité d'adaptation assez énorme, et où du coup, souvent, tellement énorme qu'ils s'oublient eux pour s'adapter à l'autre. Et du coup, il y a un moment donné où qui ils sont sort. Et comme il n'y a pas de place pour ça, et ben, ils ne contrôlent pas du tout la manière dont ça sort, de manière pulsionnelle souvent. Et donc, voilà, je définirais.
Alors,
à peu
vous
près
définissez trois grands
profils
au fond. Voilà. Trois grands profils, vous accompagnez de la même manière. C'est trois différents profils. Ou au titre aussi de psychologue, vous vous adaptez selon aussi les profils.
Alors, en tant que psychologue, on s'adapte aux individus plus qu'aux profils. Il n'y a pas une prise en charge par profil parce qu'on fait aussi avec les capacités de chacun. Donc être psychologue, de toute façon, je pense, peu importe où on travaille, ça demande une adaptation de chaque instant.
Chaque cas est différent. Chaque personnalité est différente.
Chaque personnalité est extrêmement différente, avec des ressources et des difficultés qui sont différentes. Une histoire souvent de souffrance, mais pas pour les mêmes raisons. Avec des moyens... une famille étayante ou pas, manque de volonté ou par manque de possibilités.
Alors, je me permets, vous avez dit tout à l'heure que toutes les classes sociales étaient bien représentées. On pourrait penser parfois que dans un établissement pénitentiaire de mineurs, ce sont des délinquants, prenons les grandes métropoles, des grandes banlieues et des gangs.
Alors, les grandes banlieues et les gangs, c'est plus sur les passages à l'acte, le premier profil. Mais pour le coup, le troisième profil, il n'y en a presque pas chez eux. Les histoires de mœurs, c'est beaucoup dans les milieux privilégiés. Dans les familles où on ne parle pas, où on ne dit pas les choses, où il ne faut pas déranger.
C'est tabou.
C'est compliqué de... C'est compliqué. Et la violence, c'est pareil. Il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle.
Alors,
qu'est-ce
qui fait passer cette barrière, hein? Prenons le profil aussi, le troisième profil autour des mœurs. Qu'est-ce qui fait que ce jeune adolescent va prendre le risque,
Ça peut être plusieurs choses. Soit il y a une lourdeur dans l'ambiance familiale et où il y a un moment, il faut agir pour qu'un tiers vienne voir ce qui se passe dans la famille. Et on retrouve ça aussi dans les profils de la protection de l'enfance chez les plus jeunes qui signalent à l'école des violences, des choses qu'ils ont subies. Souvent, les agresseurs sexuels, c'est des jeunes qui ont subi avant. Pour la majorité. Pas tous, mais la majorité d'entre
eux, ils ont subi. La
grande majorité,
vous le constatez vous-même ? Oui, parce que vous avez un suivi, vous avez une écoute de ces jeunes.
La majorité, ils ont subi soit de l'inceste, soit de l'incestuel. Alors l'incestuel, c'est... Il n'y a pas eu de passage à l'acte ouvertement sexuel, mais c'est une maman qui continue à donner le bain à son fils alors qu'il a commencé sa puberté, un papa qui rentre dans la salle de bain alors que sa fille elle est en sous-vêtements à 15 ans. Il n'y a pas d'idée de passage à l'acte, il n'y a pas d'agression agie d'un adulte. Enfin, il peut y avoir, dans ces cas-là c'est dramatique, mais il peut y avoir des comportements qui ne sont pas du tout volontairement intrusifs de la part du parent qui a du mal à voir son enfant grandir, et ça arrive à tout le monde. Mais l'enfant le vit comme intrusif parce qu'à l'âge qu'il a en puberté, il a besoin d'une intimité, donc d'une modification des liens avec ses parents, du fait de la génitalisation qui arrive à cet âge-là. Et que souvent, pour le parent, de voir son enfant grandir et devenir un adulte, et devenir pubère, avoir une vie sexuelle... réel ou fantasmé, ça après ça appartient à chacun. En tout cas, cette sexualité, elle naît. Et pour les parents, c'est souvent difficile à entendre. Et donc, ça peut créer un flou dans les limites de l'intimité. Et donc, souvent, c'est des jeunes qui ne se rendent pas compte qu'en mettant une main aux fesses, peut-être que la jeune fille en face, elle a la trouille et qu'elle ne va pas l'envoyer péter parce qu'il est grand, baraque, costaud... Bref, du coup, elle dit rien, mais en fait, pour elle, c'est difficile. C'est souvent des limites qui sont floues et qui font que c'est des jeunes très bien élevés, qui ont une vie tout à fait normale dans la
majorité. Donc, vous avez même dit de bonnes familles.
Oui, beaucoup aussi dans ces familles-là, où la sexualité est souvent taboue parce que c'est pas quelque chose dont on parle facilement avec ses parents, ce qui est dans toutes les familles pareil. Mais malgré tout, dans les quartiers, ils en parlent avec les copains, avec les grands frères, avec les voisins. Beaucoup plus facilement, parce qu'il y a cette proximité de quartier, avec cette vie de quartier, qui permet d'aborder des sujets avec des plus grands.
Alors cette émission dans laquelle vous intervenez aujourd'hui, Jeanne Ernoult, en tant que psychologue et votre expérience de ce centre pénitentiaire de mineurs, c'est une émission qui cible les parents, qui sont eux-mêmes donc parents d'adolescents et de cette tranche d'âge, 13-18 ans, que vous rencontrez dans ce milieu fermé, ce milieu carcéral. Si vous aviez un message à passer à ces nombreux parents, quelle que soit la classe sociale, quels seraient un petit peu les points que vous pourriez leur donner pour être peut-être plus attentif, plus vigilant, plus regardant, plus écoutant?
Attentif, vigilant, regardant, je ne sais pas. Parce qu'il faut aussi laisser l'autonomie aux adolescents qui sont en train de devenir des adultes. Donc il ne faut pas non plus plonger dans le rigide à tout contrôler, tout, parce que c'est intrusif de tout contrôler chez un adolescent. Et que du coup, il ne faut pas rentrer dans ce biais-là. Après, le conseil que je pourrais donner à des parents d'adolescents, déjà, c'est de tenir le coup. Parce que la première personne qui est victime des montées d'agressivité des adolescents, c'est les parents. Et donc il faut tenir bon. Et ça, Winnicott le dit dans tous les livres, c'est un grand psychanalyste qui est assez accessible d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Voilà, le rôle des parents à l'adolescence, c'est de tenir le coup, déjà, la première chose. Et deuxièmement, j'aurais envie de conseiller aux parents de soutenir leurs enfants et leurs adolescents dans leurs envies d'aller voir à l'extérieur, d'aller intégrer des activités autres où ils rencontrent d'autres jeunes, plus ou moins avec des jeunes plus vieux, avec d'autres adultes référents, à qui ils pourront poser des questions qui peut-être ils ne pourront pas poser à leurs parents, puisqu'il y a des sujets qui sont difficiles à aborder avec ses propres parents. La sexualité, mais pas seulement. Un jeune qui a vu un film qui l'a choqué ou qui a essayé des drogues, il ne peut pas forcément en parler à ses parents. Et donc c'est bien d'avoir des espaces autres, le sport, les activités périscolaires, le scoutisme, voilà, plein d'activités comme ça, où il côtoie des jeunes adultes, des adultes et d'autres jeunes de son âge à qui il pourra aborder ces questions-là dans un milieu qui est sécurisant et contenant et rassurant pour les parents, du coup, puisqu'il ne confie pas à n'importe qui dans n'importe quel cadre. C'est la difficulté des quartiers, parce que du coup, les jeunes, ils vont avec des pères retrouver des jeunes adultes, des adultes, mais on ne contrôle pas tellement ce qui peut s'y passer, alors que dans les activités périscolaires... Voilà, ça permet d'avoir un autre espace d'épanouissement que la maison, où à l'adolescence, c'est normal qu'ils aient envie de fuir cet espace-là. Donc, il ne faut pas les enfermer à la maison. Et d'ailleurs, un jeune qui reste enfermé à la maison, à cet âge-là, ce n'est pas très bon signe. Mais du coup, voilà, pour que ce soit possible, il faut que les parents se sentent en sécurité et donc qu'ils puissent en discuter avec leurs enfants pour trouver des espaces d'épanouissement extérieur.
Autre que les parents.
Suffisamment rassurant pour que les parents les y laissent en confiance. Et que donc le jeune puisse s'épanouir.
Alors vous avez encore plein de choses à nous dire, hein, voilà. Je vous propose de vous retrouver, si vous le voulez bien, Jeanne Ernoult, psychologue, donc depuis 10 ans et depuis près de plus de 3 ans, vous côtoyez dans cet enfermement ces adolescents, on peut dire ces adolescents de 13 à 18 ans, l'établissement pénitentiaire des mineurs à Lavaur. Rendez-vous dans Des clés pour grandir la semaine prochaine à la même heure. Merci.
Merci.